Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray, le génie de l'hédonisme 8e année, la fabulation freudienne Sigmund Freud. Aujourd'hui, les questions des auditeurs du CDN de Normandie à Michel Onfray.
Allez-y, monsieur.
Je suis à votre gauche. Puisqu'on ne nous dit pas tout, a-t-on des informations sur d'éventuelles naissances suite aux relations particulières de Freud avec sa belle-sœur ?
Non, là, il aurait fallu qu'il soit malin, ou du moins, il aurait fallu que Mina soit, fasse des grossesses dissimulées, et soit, parce que, bon, je vous dis, 43 ans sous le même toit, et il aurait fallu qu'enceinte, elle puisse quand même cacher la chose. Alors, dans ce dossier, il y a quand même quelque chose qui donne raison à votre question, et je pense que vous êtes informé puisque vous la posez, mais on a fait savoir qu'effectivement, l'un des voyages de Freud avec Mina en Italie aurait été fait pour cause d'avortement. Mais évidemment, là, il n'y a pas de preuves. Personne ne pourra jamais prouver quoi que ce soit sur ce terrain-là. Il y a un petit dossier, j'aurais pu en parler aussi, mais Jung, qui a été très très ami, très très intime avec Freud, puisque Freud a fait savoir au départ qu'il avait besoin de non-juifs, parce qu'il ne voulait pas que la psychanalyse puisse être considérée comme une science juive et qu'elle ne soit que science juive, donc il avait mis beaucoup d'espoir en Jung. Et puis, bon, Freud n'admettait pas qu'on ne soit pas totalement zélé à son endroit. Il n'a jamais accepté qu'on puisse être psychanalyste, mais ne pas défendre toute sa théorie, parce qu'on le voit bien, si on ne défend pas sa théorie, c'est sa biographie qu'on attaque. Si on attaque un concept, l'inconscient de Freud se rebelle, parce que si vous attaquez le complexe d'Édipe, c'est tout l'édifice que vous attaquez. Donc quand vous avez des psychanalystes qui, comme Jung, sont des gens de qualité intellectuellement, même si par la suite, politiquement, c'est catastrophique. Le compagnonnage avec le nazisme est indéfendable chez Jung. Mais Adler, moi je préfère Adler, qui est un grand psychanalyste, mais qui très vite, tous les deux, Jung et Adler, sont des individus qui disent à Freud, bon, peut-être que là-dessus, on peut revoir, c'est peut-être pas forcément aussi juste que ça. Et très vite, il est extrêmement violent, Freud, et il met à la porte. Il renvoie très rapidement. C'est au moment où Freud est en train, avec Max Eitingon, de composer avec les nazis, après 1933. Il compose avec les nazis pour que la psychanalyse puisse continuer à fonctionner. Ça, ce sont des choses qu'on ne dit pas, mais bon, il y a des textes, hein, et on aura l'occasion d'en parler, on conclura l'année là-dessus. Eh bien, pendant qu'il compose, qu'on discute avec les nazis, on fout à la porte Reich, parce qu'il est communiste. Et Wilhelm Reich est mis à la porte alors qu'ils sont en train de composer avec Göring, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'un des parents du maréchal qui s'occupera de ce fameux institut Göring qui permettra à la psychanalyse de continuer pendant la guerre, de continuer à être enseigné et pratiqué. Alors évidemment, ce qu'on n'aime pas chez Freud, c'est le juif Freud, c'est pas la psychanalyse, c'est une science juive, mais c'est un petit peu comme avec Einstein et la relativité. On est emmerdé que Einstein juif ait découvert la relativité, mais on peut pas nier la relativité. Il y a à peu près que les communistes qui étaient capables de faire ça, avec Lysenko, avec la génétique. Eh bien non, on était capable de dire non, la génétique se trompe, c'est une génétique bourgeoise. Mais donc on verra la complexité des relations avec la question du nazisme. De fait, La pensée de Jung devient problématique, le témoignage de Jung devient problématique. Il y a un moment où on se dit, bon, est-ce qu'on doit le croire ou est-ce qu'il a raison là-dessus ou pas? Donc lui, Jung dit très précisément qu'il a eu des confidences de Freud sur les relations intimes avec Mina, avec sa belle-sœur. Quand ils sont allés aux États-Unis, tous les trois, avec Ferenczi, ils ont fait la traversée en bateau et donc ils ont eu l'occasion de discuter abondamment. Il y a eu de la psychosomatisation de Freud qui sentait que Jung était une espèce de fils rebelle et ça, ils ne pouvaient pas l'accepter. Et ils se sont proposés d'analyser leurs rêves mutuellement en se disant, ben voilà, on va sortir mes rêves le matin et puis on va se faire des analyses ensemble et on analyse nos propres rêves. Et il y avait toujours une histoire de triangulation dans les rêves de Freud avec sa femme, sa belle-sœur et lui. Et il comprend évidemment, Jung, qu'il y a des choses à saisir là-dessous dans cette aventure, et il sollicite Freud là-dessus en disant « mais vous ne pourriez pas m'en dire un petit peu plus ?» Et en gros, Freud lui fait savoir qu'il n'a pas envie de perdre sa réputation. Donc il y a cette information qui est donnée par Jung. Jung fait savoir effectivement qu'à Vienne, au 19 Bergasse, il a rencontré la famille Freud, et que la confidence lui aurait été faite par Mina Bernays. Donc, de fait, les hagiographes disent, on voit mal Mina Bernays, à cette époque-là, dire à Jung, bah, vous savez, je couche avec Freud. C'est difficile d'imaginer que l'information ait pu être donnée comme ça, donc on n'a pas vraiment beaucoup de détails. Donc, toujours est-il que sur l'interprétation des rêves, Jung dit, bah, Freud m'a fait savoir qu'il ne m'en dirait pas plus parce qu'il avait une réputation à préserver. Quelques temps après, quand ils se sont franchement fâchés, Jung a fait savoir publiquement qu'il y avait cette relation entre Mina et Freud. Freud n'a jamais démenti. Il n'a jamais fait savoir qu'il était vexé, fâché ou je ne sais quoi. Il a toujours laissé dire. Et de fait, il y a eu ce bruit qui a couru à un moment d'un Freud qui aurait mis sa belle-sœur enceinte et qui aurait fait un voyage en Italie pour assurer un avortement qui aurait été fait là-bas. Mais alors là, évidemment, ce sont des potins complets. Alors, des potins parce que, voilà, c'est machin qui dit, c'est bidule qui fait savoir. On dit, ah oui, mais si c'est Jung, c'est normal, c'est faux. On dit, ah non, si c'est Jung, c'est donc que c'est vrai. Il faut faire un travail d'historien. Maintenant, là, on est vraiment dans le très intime. L'idée que sa belle-sœur aurait été enceinte à cause de lui et qu'il serait allé en Italie pour un avortement, comme c'était évidemment totalement interdit, réprimandé, poursuivi, etc., etc., on peut imaginer qu'on n'aura jamais de preuve de ça, ni du contraire de ça. Mais ce qu'on peut savoir, c'est que, de fait, il y a eu, à l'évidence, il y a eu une relation amoureuse et sexuelle entre Freud et Mina. Quand on voit la configuration de la chambre du 19 Bergasseux, on peut même se demander si ça ne se fait pas avec le consentement de sa propre femme. Parce que bon, voilà. Enfin, après, on n'en sait rien. Moi, je veux dire, les agencements, on fait ce qu'on peut comme on veut. Pourvu qu'on fasse souffrir personne, tout est possible. Moi, je n'ai vraiment rien contre ce genre de choses. Je ne suis pas dans une lecture de morale moralisatrice. Je pense simplement que quand personne ne souffre, alors tout est possible. Et simplement, le problème, c'est la question de la légende qui est écrite. Là, pour le coup, Freud publie les choses en faisant savoir qu'il renonce à la sexualité pour pouvoir sublimer son énergie libidinale et fabriquer avec cette énergie sublimée une psychanalyse qu'il aura sortie de lui-même. Mais on sait très bien que ça ne s'est pas passé comme ça. D'abord parce que la sublimation est fautive, et puis ensuite parce qu'il a eu des amis, des gens avec lesquels il a discuté, notamment Adler et Jung, qui sont dès le départ des individus qui contribuent à la psychanalyse. Il y a un moment d'ailleurs où il se pose la question du communisme des idées, en se disant, au moment des débats de la société psychanalytique, en se disant, bon, on débat, on discute, on fait des propositions, etc. Freud prenait toujours la parole en dernier. Et il concluait, il synthétisait, et puis à un moment, des gens apportaient des hypothèses, des lectures, fabriquaient des concepts. Et la question s'est trouvée posée, faut-il faire de la psychanalyse une science collective et communautaire? Du genre, on amène dans le pot commun tel concept, telle notion. Thalassa, par exemple, la question de... Parce qu'il y a des psychanalystes qui ont fait savoir qu'on était dans le ventre de la mer comme dans le ventre de la mer, l'océan, et qu'on était toujours dans le désir de retrouver l'utérus féminin, et que, etc. Bon, toutes ces discussions-là se font. Et la question se pose, est-ce que la psychanalyse devient une science collective, ce que Bourdieu aurait appelé la production d'un intellectuel collectif, ou est-ce que chacun devient le propriétaire de chacun de ses concepts? Et il a été décidé que chacun serait propriétaire de ses concepts. Et à partir de ce moment-là, et on voit bien que Freud n'aurait pas accepté une aventure communautaire comme ça. Et à partir de ce moment-là, effectivement, la cristallisation de la pensée freudienne va devenir une espèce de catéchisme, et il va falloir adhérer ou être éjecté. Donc quand on n'adhère pas totalement, alors à ce moment-là, on voit bien dans la correspondance toutes les manigances pour évincer, pour mettre sur le côté, pour dans les congrès faire parler celui-ci, pas parler celui-là, dans les revues, publier celui-ci, mais pas celui-là, ou réduire les textes de celui-ci, parce qu'il ne faut pas que ça prenne trop de place, parce que si ça prend beaucoup de place en volume, ça veut dire que ça prend beaucoup de place intellectuellement ou idéologiquement. Enfin, il y a tout un enjeu. Il faudrait souffler l'idée à Régis Debray, qui fait une belle revue qui s'appelle Medium, dans laquelle il fait des analyses médiologiques. Et la médiologie n'est pas la science des médias. C'est un malentendu sur cette discipline qu'il a créée et inventée. Mais Régis Debray dit la médiologie, c'est la science de la circulation des informations. Et c'est bien plus complexe que les médias. Mais de fait, un sujet de médiologie extraordinaire, c'est la construction de la psychanalyse comme une espèce d'église, de secte. Et dans cette aventure, de fait, la parole de Jung a été à un moment extraordinaire, puisque c'était le fils choisi, et puis ensuite, c'est devenu la parole maléfique, quoi. Alors sur toutes ces questions de vie privée, d'intimité, eh bien, effectivement, il y a eu une espèce de chape de silence. Peut-être que Jones, d'ailleurs, croyait hein, quand il, ce qu'il écrivait, quand il écrivait que la version de Freud était la bonne. Il y a des gens qui ont ce pouvoir de fasciner tel qu'ils sont capables de vous emberlificoter, de raconter des mensonges. Vous avez un tiers qui vous fait la démonstration que c'est vraiment un mensonge. Les gens vous disent « Ah oui, c'est vrai », et puis ils ont le dos tourné, ils recommencent à reproduire le mensonge. Enfin, le pouvoir de fascination des menteurs, des affabulateurs, des mythomanes est grand. Alors la part de Jones, elle est claire, entre la fascination, la légende consentie, etc. Elle n'est pas claire, je veux dire. En revanche, elle est claire pour des gens comme Jung qui, à partir d'un moment, disent « Bon, voilà, la rupture, elle est consommée, parce que idéologiquement, ça n'est pas possible, humainement, ça n'est pas possible. » Et puis chacun va sur des propositions théoriques qui ne sont pas du tout les mêmes. Le jungisme n'est pas du tout... Enfin, la pensée de Jung n'est pas du tout en relation avec Freud, qui lui, est dans l'obsession de l'Œdipe. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas ce problème personnel avec leur propre mère ne sont pas autant obsédés par la question œdipienne. Donc chez Reich, chez Jung, chez tous les autres, chez Ferenczi, chez Abraham, enfin, c'est tous ceux qui sont là à cette époque-là, Œdipe, oui, mais est-ce que c'est vraiment une vérité de tout le monde ou est-ce que c'est une vérité freudienne ? Et on n'ose pas forcément dire la chose, puisque d'abord on n'a pas le matériau. Le matériau, ce sont ces correspondances publiées, et je vous dis, en France, elles ne le sont que depuis 2006. Mais tous ces containers d'archives dans lesquels on aurait probablement un nombre considérable d'informations pour résoudre enfin tous ces problèmes-là, tous ces containers-là étant fermés, ben évidemment, la légende peut continuer. Je pense que ce que souhaitaient les hagiographes, c'est que la légende ait le temps de s'installer pour que l'histoire puisse faire son travail ensuite. C'est-à-dire que quand vous avez assuré, quand vous avez un siècle de légende possible devant vous, c'est difficile de faire de l'histoire un siècle plus tard. C'est-à-dire que les enjeux ne sont plus les mêmes. Alors vous pouvez vraiment faire de l'histoire, mais vous avez tellement imprégné les consciences, imprégné l'histoire, imprégné la pensée, que, bon, après tout, on peut avoir deux ou trois informations de ce type-là. Mais sur cette question de Mina enceinte, oui, il y a eu ce bruit qui a pu courir d'un Freud comme père possible. Enfin, là, pour le coup, on est dans la logique incestueuse. Il le dit lui-même. Hein.
Oui.
Allez-y, monsieur.
Oui. Quels étaient les rapports qu'ont pu avoir, puisque je crois que Bachelard est mort en 62, Bachelard et Freud ?
C'est une belle question qui m'a demandé beaucoup de travail, parce que... Moi, j'ai beaucoup aimé la formation d'esprit scientifique. Quand j'ai lu ça en terminale, on avait ça comme conseil de lecture en philo. Et cette idée qu'il y ait une psychanalyse de la connaissance objective, puisque c'était la proposition de Bachelard, m'a intéressé parce que je me suis dit, mais c'est quoi la psychanalyse de Freud, de Bachelard, très précisément ? Est-ce que la formation de l'esprit scientifique est une psychanalyse au sens classique du terme ? Réponse non. Il a été évidemment saisi, Bachelard, par ce qui est arrivé en France sur Freud, et évidemment ça a beaucoup ébranlé les consciences. Quand on lit les premières traductions de Freud, on découvre effectivement que s'il dit vrai, si c'est la vérité, personne n'est allé sous le divan pour voir comment ça se passait, personne n'est allé vérifier que les cas ont été vraiment analysés, guéris, etc. Vous avez quelqu'un qui, avec un aplomb considérable, vous dit que les choses se sont passées comme ça. Donc nombre de gens, parce que j'ai travaillé un petit peu sur la question de la réception de Freud en France, nombre de gens se sont fait un peu abuser. Via Gide, en l'occurrence, via André Gide, qui lui s'emballe absolument, c'est les mystères de l'ego, de la personne, du narcissisme, la question du moi, la question des rêves, etc. Et Gide emballe toute la NRF et tout Gallimard sur cette aventure, en considérant que c'est monstrueux, c'est considérable, Freud, et c'est vraiment très important. Donc on trouve, j'ai cherché chez Camus, chez Martin Dugard, et chez quelques autres, enfin chez les Gallimardiens, des réactions critiques. Elles n'existent évidemment pas, on a juste une espèce de coup de chapeau qui est donné, forme d'hommage, donc au génie psychologique de Freud. Donc Bachelard fait partie de ceux qui découvrent effectivement Freud en France via la médiatisation opérée par Gallimard. Et on n'est pas sûr qu'il ait beaucoup lu Freud. On ne sait pas trop, enfin on peut imaginer qu'il aura lu. Simplement, Bachelard considère que la psychanalyse, et là il est assez génial sur ce terrain-là, la psychanalyse, ce n'est pas seulement une invention de Freud. Le coup d'État et le coup d'éclat que Freud rend possible en laissant croire aujourd'hui, encore, enfin après lui, en son temps après lui et encore aujourd'hui, que la psychanalyse c'est lui et personne d'autre, et qu'avant lui il n'y a pas de psychanalyste et qu'après lui il n'y aura pas de psychanalyste, ça c'est une aventure étonnante, car il y a une psychanalyse avant Freud, on aura l'occasion d'en parler, je ferai un cours là-dessus, et il y a une psychanalyse pendant Freud, bien sûr, et il y a une psychanalyse après Freud. Et à l'évidence, on n'est pas tous tenus de considérer que quand on a envie d'entrer dans le détail d'une âme ou d'un inconscient, on y trouvera obligatoirement le meurtre du père, la horde primitive, le complexe d'Édipe, etc. Donc, un peu de manière intuitive, un peu comme des artistes ou comme des poètes, ces gens-là, dont Bachelard, découvrent que ce qu'on appelle le pansexualisme, c'est-à-dire l'idée de voir du sexe partout, c'est peut-être une aventure un peu freudienne et qu'on n'est peut-être pas obligé de le suivre sur tous ces terrains-là. Pierre Janet, en France, est quelqu'un de considérable que Freud aura pillé et qui est d'une certaine manière le Freud français, qu'on a du mal à trouver aujourd'hui, qui n'est pas édité, dont on ne trouve pas les travaux. On parle de Janet aujourd'hui à partir de Freud, des relations que Freud aura pu entretenir avec lui, mais il y a une psychanalyse de Pierre Janet qui mériterait une véritable réhabilitation. Et on peut imaginer, mais ça c'est une hypothèse que je lance parce que je n'ai pas fait le travail qui me permettrait de le vérifier, que la psychanalyse de Bachelard, elle est plus française qu'allemande. C'est ce que Elisabeth Roudinesco fait savoir. Il y aurait eu, d'une certaine manière, une psychanalyse française, un freudisme à la française, avec des individus qui sont oubliés aujourd'hui. Elle en a raconté l'histoire dans l'histoire de la psychanalyse, en deux volumes. Et on peut imaginer que Bachelard est intéressé par l'idée qu'on pourrait faire une psychanalyse, mais pas une psychanalyse freudienne. Et la psychanalyse qu'il propose, par exemple dans la formation d'esprit scientifique, que j'ai relue récemment, enfin en début de, dès que j'ai commencé à travailler sur Freud, parce que j'avais envie d'une espèce de psychanalyse de la connaissance objective pour le faire dans l'esprit de Bachelard, effectivement, il y a cette idée extrêmement intéressante de l'obstacle épistémologique. Bachelard dit, quand on cherche à connaître, il y a des moments où on croit connaître et où, en fait, on ne connaît pas, mais c'est la résistance qui va nous faire connaître. C'est, pour le dire autrement, c'est l'erreur qui va nous conduire à la vérité. La vérité de la chimie est dans l'alchimie. Et il lit, par exemple, des traités d'alchimie, il essaie d'expliquer pourquoi cette chimie qui n'a pas encore lieu, la chimie moderne qui n'a pas encore lieu, d'une certaine manière, c'est une chimie poétique, et que le travail de l'artiste, il est d'une certaine manière de prévoir, de pressentir un certain nombre de choses que les scientifiques verront plus tard. Je suis en train de faire une expérience extrêmement intéressante. Moi, vous savez, j'adore Démocrite, j'adore Épicure et Lucrèce et les matérialistes de l'Antiquité. Je suis en train de découvrir quelqu'un que je vous invite à lire, qui s'appelle Michel Cassé, et qui est quelqu'un qui fait de la physique, la physique du cosmos. Et j'étais en train d'écouter, en venant en voiture, une heure sur les étoiles, la construction des étoiles, la formation des étoiles, l'énergie des étoiles, etc., sur le cosmos, les trous noirs, les supernovas, le fonctionnement des trous noirs et des supernovas, etc. Vous dites, la science aujourd'hui est parvenue à nommer, et Cassé est un poète en même temps, lisez Théorie du ciel, par exemple, un joli petit livre qui est plein de fulgurances poétiques, et vous voyez que les fulgurances poétiques d'un Épicure sont aujourd'hui confirmées par la physique du cosmos la plus pointue. De sorte qu'on peut imaginer que, et Bachelard avait raison, et Feyerabend a raison de le dire aussi dans Contre la méthode, parfois, vous cherchez, vous ne trouvez pas, mais c'est l'erreur qui va vous faire trouver. Donc cette psychanalyse de la connaissance objective, elle est extrêmement intéressante chez Bachelard, parce qu'elle permet de parler d'une psychanalyse à la française qui n'est pas freudienne et qui donne à l'inconscient une existence, mais qui n'est pas l'existence de l'inconscient freudien. Vous savez qu'il y a deux temps dans Bachelard, on les oppose, moi je ne les oppose pas, je crois qu'il faut penser comme chez Jean-Sébastien Bach en termes de contrepoint. Il y aurait eu un Bachelard épistémologue, et puis il y aurait eu un Bachelard spécialisé dans les éléments, l'eau et les rêves, la psychanalyse du feu, la flamme d'une chandelle, ou ce genre de choses, et on aurait en face la philosophie du nom, le nouvel esprit scientifique. Or, c'est la même chose. Ce sont les ouvrages d'un même personnage qui se propose, lui, pour le coup, une psychanalyse personnelle. C'est-à-dire il s'agit pour lui de prendre psychanalyse au sens étymologique du terme, en se disant, voilà, la psychoanalyse, comme on disait au départ, c'est une analyse de l'âme. Et il s'agit d'aller faire l'analyse de l'âme. Je vous renvoie à son Lautréamont. Il y a un Lautréamont de Bachelard qui est une psychanalyse de Lautréamont, mais qui n'est pas une psychanalyse freudienne. Et je conclurai là-dessus, il faut ajouter que Bachelard va découvrir Jung, pour le coup la psychanalyse de Jung, et qu'il sera beaucoup plus intéressé par la psychanalyse jungienne, c'est-à-dire la question des archétypes, la question d'un inconscient collectif, Jung est quelqu'un qui va travailler ensuite sur des choses un peu extravagantes, sur la question des soucoupes volantes, des extraterrestres, des inconscients collectifs, sur la question de l'alchimie, sur la question de l'ésotérisme. Il était, lui, très partisan de l'occultisme et de l'ésotérisme. Mais ça, mis à part, parce que Bachelard n'était pas un lecteur précis et rigoureux de ces œuvres-là, c'est quelqu'un qui butine ici et là, et quand il butine chez Jung, il y trouve bien plus d'intérêt que chez Freud, sans pour autant être jungien, et il présentera une psychanalyse qui est tout à fait personnelle. Et je vous parlais tout à l'heure des travaux d'Elisabeth Roudinesco. Il y a deux fois 500 pages, enfin une histoire de la psychanalyse en France. Et il y a trois lignes sur Bachelard où elle dit que c'est un peu trop compliqué comme histoire, c'est un truc à part, Bachelard, et que Bachelard n'aura pas sa place dans ce volume. Moi, je pensais au contraire, dans ces deux volumes, qu'il méritait un chapitre à lui seul. Ce chapitre à lui seul, vous le trouverez dans un petit texte qui est publié dans le colloque de Cerisy qui a été consacré à Bachelard. Ça a été publié aux éditions 10-18 en poche. Et dans ce colloque Cerisy-Bachelard, vous avez deux ou trois interventions qui sont faites sur Bachelard et la psychanalyse. Et de fait, ça synthétise bien un travail que moi j'avais fait un peu par moi-même et qui là pour le coup est assez synthétique. En conclusion, il aura, me semble-t-il, été un personnage qui aura fabriqué une psychanalyse extrêmement intéressante, comme Sartre. Je pense que la psychanalyse existentielle de Sartre est un moment important dans la pensée de Sartre et qu'on n'a pas tiré toute la substance de la psychanalyse existentielle sartrienne. Il faudrait faire un beau livre sur la psychanalyse sartrienne qui ne soit pas un livre sartrien, la psychanalyse existentielle, c'est-à-dire éviter les en-soi, les pour-soi ou ce genre de choses. Quand on a expliqué que la dialectique de l'en-soi et du pour-soi, c'était la dialectique de l'objet et de la conscience, c'est nettement plus clair. Si je vous parle de l'en-soi et du pour-soi de la bouteille, ou si je vous dis « mais la bouteille n'a pas d'existence en tant que telle, elle a une existence à partir de moi, qui suis la conscience qui fait surgir à la vérité ou à la réalité cette bouteille », c'est nettement plus clair, enfin j'espère, que si vous argumentez avec les imbrications, les intrications dialectiques de l'en-soi et du pour-soi. Mais si vous sortez de ça, je renvoie au chapitre de L'être et le néant qui s'appelle la psychanalyse existentielle, et que vous allez voir le Baudelaire, je vais les prendre dans l'ordre de croissance si vous voulez, c'est le plus court, le Baudelaire, le Saint-Genest comédien martyr, 600 pages, et puis ensuite l'idiot de la famille, alors là ça fait 3000 pages, quelque chose comme ça, et c'est inachevé, et ça sent la corydrane, hein, je vous assure, derrière, les amphétamines. Et bien vous allez voir comment ça marche, la psychanalyse existentielle, et là c'est nettement plus intéressant. Cette idée que Genet devient Genet à partir du moment où, fils de l'assistance publique, on le découvre en train de voler un couteau, et comment, se découvrant voleur, il se choisit voleur pour pouvoir consentir à son propre destin. Là, vous avez un démontage extraordinaire de Genet sur 600 pages. Et puis l'articulation avec Flaubert, pour moi c'est un très très grand livre, l'idiot de la famille, parce que Sartre, pour le coup, c'est un vieux monsieur, il a beaucoup abusé, il est quand même pas mal détruit, l'alcool, etc., la drogue, etc., très sollicité par ses copains Mao à l'époque, qui lui disent « tu nous emmerdes avec tes travaux de philosophe, viens plutôt militer avec nous ». C'est le dernier travail de Sartre, il est inachevé, mais il y avait tout le génie de Sartre. C'est sûr que le génie de Sartre est dans cette aventure, on sent le personnage génial, on n'est plus dans le marxisme, on n'est plus dans le marxisme horizon indépassable de notre époque, on n'est plus dans ce genre de choses, mais dans une proposition sur laquelle on n'est jamais revenu. C'est-à-dire que la psychanalyse d'aujourd'hui, à mon avis, aurait intérêt à aller voir du côté de Sartre, parce qu'on conserve la conscience classique, on est dans la logique, dans la transcendance de l'ego, l'imagination ou l'imaginaire, les premiers livres de Sartre, qui constituent une phénoménologie française, pour le coup. Parce que, bon, il a beaucoup lu Husserl et Heidegger, mais Heidegger n'était pas content du tout de la façon dont Sartre lisait son propre travail. Mais il y a là une espèce de matériau extrêmement intéressant. Il y a une psychanalyse française, Pierre Janet, Bachelard, Sartre. Je pense que ça peut faire un très beau livre pour des thésards ou pour des gens qui voudraient faire un master ou un tiers de master avec ces trois-là, je dirais, mais montrer qu'effectivement la psychanalyse n'a pas été que viennoise, que freudienne, qu'autrichienne, qu'allemande, et qu'il y a eu une espèce de tradition psychologique, psychanalytique française qui, elle, renvoie, on pourrait même aller chercher des ancêtres du côté de la Bruyère, du côté de Chamfort, du côté de La Rochefoucauld, du côté de tous ces moralistes, ou Vauvenargues, ou des gens qu'on ne lit pas vraiment beaucoup aujourd'hui, mais une tradition de la psychologie un peu fine, et Bachelard en a fait partie. On est dans la tradition française de la clarté, de la limpidité, de la simplicité, et Bachelard propose vraiment une psychanalyse qui, à mon avis, mériterait d'être travaillée. Je ne suis pas un spécialiste de Bachelard, mais ce que j'ai pu voir de la bibliographie de Bachelard quand j'ai travaillé sur cette question-là est quasi nul, le rapport de Bachelard à la psychanalyse. Voilà pourquoi votre question était intéressante. On vous amène un micro, monsieur.
Bonsoir. En prolongement de la question précédente, je m'étonne un tout petit peu que dans la réponse que vous avez faite, vous n'ayez pas évoqué aussi le rôle, vous avez cité Bachelard bien sûr, mais le rôle des surréalistes dans la construction de la légende. Ça c'est la première question, pourquoi cet oubli? Et puis la deuxième question qui est peut-être plus importante, c'est que pensez-vous du rôle des surréalistes dans la construction de cette légende? Surréaliste avec André Breton en tête, qui avait un esprit critique assez exceptionnel, bon, et qui aurait dû, à mon avis, se rendre compte, même à l'époque, peut-être des ratés de Freud.
Oui, non, je n'ai pas parlé des surréalistes parce que je ne peux pas parler de tout, et j'en parle volontiers. Comme d'un appendice à la question, effectivement, il y a un moment important qui est, vous avez raison, dans la réception du freudisme en France, c'est aussi le surréalisme. Simplement, les rapports entre Breton et Freud sont tendus. C'est-à-dire qu'il faut mettre tout ça aussi en perspective avec la Première Guerre mondiale. Tous les surréalistes sont des gens qui ont connu cette immense boucherie qui, bon, Breton évidemment, Apollinaire, Revel, Vacher, Rigaud, etc., tous ces gens qui ont connu le front, le sang, la boue, les saloperies, les rats, la mort, etc., sont tous des gens qui ont découvert la folie du monde. Et ils découvrent en Freud quelqu'un qui penserait la folie du monde et qui serait capable de penser la folie du monde. Je conclurai l'année là-dessus en disant que peut-être l'un des dommages les plus importants de Freud, c'est d'avoir laissé croire qu'il n'y avait pas grand-chose de différence entre un névrosé et quelqu'un qui ne l'est pas. Il y a un moment où on considère que finalement, chez Freud, tout le monde est fou et que donc personne ne l'est véritablement et que la normalité, ça n'existe pas et qu'il y a en gros une différence de degré entre le fou et le normal, entre guillemets, et sûrement pas une différence de nature. Ça, je pense que c'est dommageable. C'est quand même assez facile de considérer que même si on a des fantasmes, même si on a une vie sexuelle extravagante, même si, etc., c'est pas la même chose que d'être un égorgeur de femmes ou un violeur de petites filles et compulsif, etc. Il y a une vraie différence et on n'est pas dans la morale que de le dire de cette manière-là. Donc il y a eu cette espèce d'occasion de penser enfin la folie. La folie, à l'époque, c'est pas compliqué. Enfin, Foucault a travaillé là-dessus. Hein, c'est on enferme, point à la ligne. D'aucuns disent... Les antipsychiatres, par exemple, Lang, Cooper, justement, des sartriens, considèrent que ce n'est pas le fou qui est fou, c'est la société qui est folle. Et que peut-être les fous, ce sont les vrais sages. Et on a déjà ça chez Erasme avec l'éloge de la folie, cette idée du qui est sûr que le fou soit véritablement le fou. Et de fait, on peut imaginer que la dialectique, elle se trouve inversée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'un seul coup les fous et les gens normaux, mais on aurait tout le monde un peu fou. Et on peut comprendre effectivement qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale, on ait pu réfléchir sur la question de la folie des hommes. Donc il y a cette fascination de Breton pour l'interprétation des rêves. Parce que d'un seul coup, on montre qu'il n'y a pas que la raison raisonnable et résonante, qu'il n'y a pas que le discours de la méthode de Descartes, qu'il n'y a pas que de la raison pure, et que le rêve nous apprend peut-être plus de choses sur nous-mêmes que la raison, l'instrument de Kant, si vous voulez. On a le discours de la méthode de Descartes, on a la critique de la raison pure de Kant, et puis d'un seul coup, on a un Freud qui arrive et qui dit « Oh là là, mais attendez, la raison ne fait pas la loi chez elle, c'est pas la raison qui fait la loi, c'est une espèce de grain de folie, c'est un inconscient, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose d'introuvable, c'est quelque chose d'indicible, c'est quelque chose de noir, de sombre, c'est quelque chose qui nous apparente aux animaux, aux fous, aux névrosés. » Donc effectivement, le poète, qui est André Breton, qui rentre du front et qui connaît cette expérience-là, se dit « je vais voir Freud ». Et il prend un rendez-vous, il s'en va au 19 Berggasse à Vienne, et il s'en va voir Freud, et ça se passe pas bien avec Freud. En gros, Freud dit « mais ils n'ont rien compris ». Il écrira plus tard que les surréalistes n'ont rien compris à son œuvre. Ça se passe mal parce qu'en gros, Freud n'aime pas la France parce que la France ne l'aime pas assez. Et Breton et Français, et ben voilà, c'est Breton qui prend. Donc Breton, il rentre en disant, c'est une espèce de médecin de province avec des bourgeoises qui attendent dans la salle d'attente. C'est un petit poil qui chauffe. C'est pas un personnage drôle. Il est pas intéressant parce que voilà, ça se passe mal entre les deux hommes. Breton rentre en considérant qu'il y a un matériau qui est dans l'œuvre. Et pour le coup, le matériau qui est dans l'œuvre, c'est la question du rêve, c'est la question de la fiction, c'est la question du délire, c'est la question d'une espèce d'ouverture des portes esthétiques. Alors, il faudrait mettre ça en perspective avec Marcel Duchamp, avec Marinetti, avec le futurisme et toutes les avant-gardes. L'esprit de cette époque-là, c'est quand même 24, je crois, le premier manifeste du surréalisme, je pense que c'est à peu près la date. Quand vous avez eu, pendant la guerre, un manifeste du futurisme signé par Marinetti et publié dans le Figaro, et que vous avez cette espèce d'éloge extraordinaire de la guerre, de la folie, de la grande santé, un espèce d'usage de Nietzsche que Nietzsche n'aurait pas aimé, mais un usage de Bergson que Bergson n'aurait pas aimé, mais qui fait une espèce d'éloge de l'énergie spirituelle, d'un tas de choses qui sont irrationnelles, sinon déraisonnables. Alors d'un seul coup, on voit qu'il peut être intéressé par ça, Breton, parce qu'il y a un matériau susceptible de faire exploser toute l'esthétique classique. L'esthétique classique, c'est l'ordre, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Regardez la musique, la peinture, etc. à cette époque-là, on n'est pas du tout dans la dissonance, on n'est pas du tout dans la disharmonie, on est dans le classique, quoi. Et d'un seul coup, vous avez un personnage qui s'appelle Marcel Duchamp et qui d'un seul coup fait son ready-made. Vous avez, et qui nous dit, voilà, regardez, aujourd'hui une pissotière, dans la mesure où on la sort de l'endroit où elle a été fabriquée, où on la signe et on l'installe dans un musée, elle devient une œuvre d'art parce que c'est le regardeur qui fait le tableau, une espèce d'explosion esthétique extraordinaire. Vous avez des futuristes soviétiques à l'époque, c'est-à-dire qu'au début, les avant-gardes futuristes soviétiques, elles sont dans l'hypermodernité. Très vite, on va tomber dans le réalisme soviétique, dans le réalisme socialiste, pardon, des soviétiques, mais vous avez là toute une espèce de ferment extraordinaire d'avant-gardistes, et Breton est un petit peu derrière tout ça, parce que bon, vous avez, en amont, vous avez tout ce monde-là. Vous avez aussi en amont, il faudrait prendre d'autres Viennois comme Schoenberg, en musique. Et quand Schoenberg, vous savez que Schoenberg compose en même temps que Ravel, vous dites, c'est étonnant, mais écoutez le Pierrot Lunaire, écoutez le Boléro que vous avez tous en tête, plus ou moins, et si je vous le dis, vous l'aurez encore en tête ce soir à minuit, mais vous mettez ça en perspective, vous dites, la modernité viennoise, le dodécaphonisme et toutes ces choses-là, donc vous avez un André Breton qui saisit bien la nécessité d'une espèce d'explosion esthétique et qui se dit, mais la psychanalyse va nous fournir ça. Le rêve, en tant qu'il est la voie royale qui mène à l'inconscient, c'est l'expression que Freud utilise dans Le rêve et son interprétation, qui est un petit texte qui dispense de lire l'interprétation du rêve. Le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient. Et d'un seul coup, les surréalistes disent « Allons-y, laissons faire. Vous êtes allongé sur le divan, la méthode est dite d'association libre. On vous dit « Détendez-vous, racontez-moi ce qui vous passe par la tête et ne retenez rien. » Si c'est dans un désordre grammatical, stylistique, syntaxique, ou si c'est dans un désordre immoral, amoral, ou je ne sais quoi, peu importe, racontez. Et d'un seul coup, ça devient un discours de la méthode de l'avant-garde surréaliste. Prenez les deux manifestes du surréalisme et vous avez un éloge, par exemple, de l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est très exactement l'inverse de ce qu'on enseigne. C'est-à-dire, l'écriture automatique, c'est presque un oxymore. À l'école, on apprend à écrire, à lire, à penser, à construire. À une époque, on faisait des « à la manière d'eux », c'est-à-dire qu'on vous prenait une page de Flaubert, et puis on vous disait, voilà, vous avez la description de la pièce montée le jour du mariage, bien vous gardez la structure de la pièce montée, puis vous me racontez une bicyclette, ou n'importe quoi. Mais là, vous avez un sujet, un verbe, un complément, vous avez sujet, verbe, complément. On apprenait à écrire. Et on était capable de faire des pastiches. Et on apprenait à écrire en faisant des pastiches. Donc on pouvait pasticher, aujourd'hui on pourrait pasticher Gracq, pasticher Proust, pasticher Delteil, pasticher Cohen, Albert Cohen, je prends les grands stylistes, et on considère, moi je ne suis pas contre cette idée-là, que c'est comme ça qu'on apprend le métier, et qu'on apprend à écrire quand on a vu comment les autres écrivaient. Et d'un seul coup on dit non, allez-y, un papier, une plume, allez-y, racontez, et vous aurez avec l'écriture automatique quelque chose de génial. Quand on est Soupeau, quand on est Breton, quand on est tout ça, évidemment, ça peut marcher. Moi, je l'ai fait avec des élèves, c'était pas forcément extraordinaire. Ceci dit, Ceci dit, c'était des expériences quand même intéressantes. C'est-à-dire que d'un seul coup, les élèves, j'expliquais le surréalisme, j'expliquais l'écriture automatique, et ça libérait chez des élèves des choses qui produisaient des images extraordinaires. La stylistique, la syntaxe, tout ça, c'était pas extraordinaire, mais ça l'était déjà pas en amont. Donc il n'y avait pas de raison que d'un seul coup, subrepticement, ils soient devenus des gens qui auraient su écrire correctement le français. Mais si on faisait l'économie de la syntaxe qui se trouvait maltraitée, brutalisée, on avait l'émergence de belles images, de belles fulgurances esthétiques. Et ils étaient plutôt contents d'eux. Et moi, j'aimais bien quand mes élèves étaient contents d'eux, parce qu'on ne leur en donnait pas souvent l'occasion, parce qu'ils se sentaient... Oui, c'est ça. Ils se sentaient pleins d'une espèce de créativité que l'écriture automatique rendait possible. Je leur expliquais le cadavre exquis en leur disant, voilà, vous écrivez un bout de phrase, vous masquez la moitié de la phrase, vous donnez l'autre bout, vous passez au voisin qui, lui, à partir de ce bout-là, fait la même chose, il écrit une phrase, on cache la moitié, etc. Puis à la fin, on développe tout et on lit. Et les espèces de collisions, de syntaxe, bien sûr, de sémantique, etc., mais d'image aussi, c'était toujours quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc vous faites ça avec la peinture, parce qu'il n'y a pas eu de musique à proprement parler surréaliste. Il y a eu un peu de théâtre surréaliste, mais très peu. Il y a vraiment les spécialistes du théâtre qui connaissent le théâtre surréaliste. Le spectre est moins grand que chez les futuristes. Les futuristes ont tout fait. La gastronomie, Filia, par exemple, a fait des choses extraordinaires, une gastronomie futuriste, la musique avec le bruitisme de Rossolo. Ils ont tout fait, le cinéma. Les surréalistes, un petit peu moins. Et la peinture. Alors eux, quand ils sont rentrés dans la peinture, c'est extraordinaire. Vous avez la peinture classique, et d'un seul coup, on vous dit, peignez vos rêves. Et vous avez presque des paysages qui sont les paysages de l'inconscient. Regardez Tanguy, par exemple, la peinture de Tanguy, la peinture de Max Ernst, ou de quelques autres qui, d'un seul coup, ou de Dali, qui, d'un seul coup, sont dans des logiques oniriques. Dali voit Freud à Londres, dans son exil. Il fait un portrait, d'ailleurs, de Freud que Jones refuse à montrer à Freud, parce qu'on y voit trop la mort. Mais c'est pareil, Freud passe à côté du surréalisme. C'est un classique, Freud. C'est un lecteur de Sophocle, c'est un lecteur de Cervantes, c'est un lecteur de Shakespeare, c'est un lecteur de Nietzsche, oui. C'est aussi un lecteur de Schnitzer, pour parler des contemporains, mais ça ne va pas au-delà. Ce n'est pas un moderne, Freud. C'est même quelqu'un qui est un anti-moderne. Et de fait, les surréalistes s'emparent de Freud, du freudisme, de la psychanalyse, de l'espèce d'immense liberté que ça rend possible. Et effectivement, avec la libération de tous les instincts, on obtient des choses un peu extravagantes. Hein, quand Breton écrit, je ne sais plus si c'est le premier ou le second manifeste, mais que l'acte le plus surréaliste consiste à descendre dans la rue avec un revolver et de tirer au hasard dans la foule, évidemment, ça peut secouer les spécialistes de l'art classique ou de ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est problématique. Vous avez quelques ronchons comme Jean Clair qui considèrent que c'est l'origine du terrorisme, et que Ben Laden est un lecteur d'André Breton, pour aller vite. Mais vous avez pas mal de contempteurs de la modernité qui attaquent les textes du surréalisme sans contextualiser et sans jamais faire d'histoire, hein, en considérant que ça flotterait dans l'éther, un peu l'éther intellectuel. Alors que vous avez raison, ça a été une espèce de grande claque dans l'esthétique moderne, dans la modernité, et ça a généré plein de choses. C'est-à-dire donc peinture, littérature. Breton n'aimait pas le roman, donc il n'y a pas eu de roman surréaliste, même si Soupeau, lui, a fait des romans surréalistes. Mais on sait que Breton était quand même un personnage autoritaire, et que ce qu'il aimait, il fallait qu'on aime. Si on n'aimait pas, on était mis à la porte. Et donc il y a plein de domaines qui n'ont pas été abordés, parce que le cinéma, je dis tout à l'heure, le cinéma, la musique, etc. Mais la peinture, la poésie ont été des grands moments surréalistes rendus possibles par la lecture de l'interprétation des rêves. Ce à quoi il faut ajouter que, oui, vous avez raison, c'est un grand moment dans la pénétration de la psychanalyse en France. Vous parliez tout à l'heure de Gide, en disant que Gide et la NRF, ça avait été un premier temps. Mais de fait, on peut associer le surréalisme et en général, et André Breton en particulier, et savoir, parce que ça c'est intéressant de le dire, et on le dit assez peu, qu'un certain Jacques Lacan est un personnage qui est fasciné par les surréalistes. C'est un personnage qui, dans sa province, est une espèce de personnage qui démarre à l'Action française, et puis qui, d'un seul coup, découvre le surréalisme comme une espèce d'occasion de faire tout exploser. Et Lacan est un personnage qui, quand on a saisi sa dimension surréaliste, peut effectivement être saisi comme un personnage qui a pour maître, si tant est que ça puisse avoir un sens de dire pour maître, mais en fait qui a comme source, Freud plus Breton. Disons que Lacan, c'est Freud plus le surréalisme. Et on a effectivement cette espèce de, de libération des instincts, de soi-même, une espèce de posture dandy, l'hypersubjectivité, la célébration de l'hypersubjectivité. Et ce sera un dandy, Lacan, si on veut vraiment subsumer la totalité de l'œuvre, de l'être, de la pensée, etc., sous un mot, ça peut être effectivement un dandysme. C'est un dandysme freudien. Et ce dandysme freudien a été rendu possible par la psychanalyse qui a produit de longs effets, puisque d'avant-garde marginale et alternative, le surréalisme est devenu l'art officiel. Un certain temps, c'est devenu l'art officiel. Donc il a fallu que, dialectiquement parlant, des gens s'attaquent un peu à ça, et on est encore un peu là-dedans, s'attaquent un petit peu à ça pour considérer que les avant-gardes étaient d'arrière-garde et qu'on n'est pas tout le temps d'avant-garde. C'est-à-dire, si on est d'avant-garde avec la pensée de Duchamp, à l'époque de Duchamp, on est d'avant-garde, mais un siècle après Duchamp, on n'est plus d'avant-garde en défendant les mêmes idées. Donc, effectivement, il faut passer à autre chose. Mais le surréalisme a produit des effets en longueur, y compris chez des gens qui en ont célébré l'éthique, les plus loin éthiques, plutôt que les choses intéressantes. C'est-à-dire les gens qui démarrent des romans au milieu d'une phrase et qui terminent le roman au milieu d'une phrase et qui n'auront fait qu'une seule grande phrase sans point, sans virgule, etc., en considérant que c'est génial. Il y a encore des gens dont on nous dit qu'ils sont d'une hypermodernité parce qu'ils font un roman avec une grande longue phrase sans ponctuation, etc. Non, ça va, quoi. Ça a fait son temps, c'était bien à une époque. C'est comme les carrés blancs sur fond blanc, c'est comme la musique dodécaphonique, tout ça a son sens dans un temps et dans un moment donné. Et il y a des durées plus ou moins longues. Donc, de fait, le surréalisme a duré longuement. Nous en sommes encore même un peu marqués. Mais vous avez raison, l'un des grands activateurs de Freud, du freudisme, de la psychanalyse en France, ça aura été effectivement le courant surréaliste qui, lui, s'enracine dans l'après-guerre, dans l'après-première guerre mondiale. Il y a un petit dessin extrêmement intéressant, un schéma intéressant, qui est une planisphère, un planisphère qui est symbolique. C'est-à-dire quand vous avez la projection de Mercator, elle est classique, tout le monde connaît, etc. Donc voilà, on respecte les choses. Et les surréalistes avaient fait une espèce de représentation affective du monde, en considérant que tous les lieux qui avaient joué un rôle important pour le surréalisme étaient hypertrophiés et les autres étaient petits, quoi. Donc vous avez une carte du monde qui est assez intéressante, où vous avez des pays qui disparaissent totalement de la carte et puis d'autres qui remplissent totalement le monde. Vous avez la France qui est totalement disparue, mais toute la place est prise par Paris. Et puis vous avez comme ça des mondes extraordinaires parce qu'il aimait ce qu'il appelait l'art magique, André Breton. Il a appelé, à mon avis, art magique un peu fautivement des choses sur lesquelles il n'a pas travaillé. J'ai fait un petit livre sur Monsieur Desiderio, c'est le nom de deux peintres napolitains, enfin, originaires de Lorraine et puis qui sont partis après à Naples et qui ont fabriqué des paysages d'explosion, comme ça, des paysages de ruines, des paysages étonnants où on voyait un petit bonhomme sur une plage avec une mitre sur la tête. Et bon, quand on sait que c'est Saint-Augustin sur les ruines, il y a toute une symbolique qui est extrêmement précise quand on fait de l'histoire. C'est une peinture de la contre-réforme, la peinture de Monsieur Desiderio. Il s'agit de réagir contre le protestantisme en reproposant les fondamentaux chrétiens catholiques, et c'est cette peinture-là qui le dit. Et dans l'art magique, Breton considère que c'est une peinture onirique. Non, elle n'est pas onirique du tout. Alors c'est la même chose avec les sculptures de l'île de Pâques, c'est la même chose avec la peinture préhistorique, enfin toutes ces choses qui font que, quand il ne comprend pas, Breton parle de magie. Et il y a deux façons d'être par rapport à la magie. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Roland Caillois. Roger Caillois, pardon, c'est pas le même. Et Caillois et Breton se sont disputés sur des petits pois sauteurs. C'est-à-dire qu'il y avait un petit pois et on le mettait sur la table et ploup, 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 le petit pois, il sautait. Et Caillois dit, on va couper, on va voir ce qu'il y a dedans. Et Breton dit, non, on garde le mystère. On garde le mystère. Et donc, effectivement, ils se sont fâchés là-dessus parce qu'il y avait un Caillois qui, lui, voulait couper pour savoir ce qu'il y avait dedans, quoi. Donc la grande tradition rationaliste, du personnage qui coupe, hop. Et puis André Breton qui, lui, considère que le mystère est extraordinaire, qu'il faut le garder intact et qui n'a pas voulu ouvrir les petits pois. Moi, je sais ce qu'il y avait dans les petits pois. Vous êtes gentil, je vous dirai la semaine prochaine. Quand on ouvre le petit pois, il y a un petit parasite qui, en bougeant, faisait sauter le petit pois. Donc évidemment, soit vous êtes un tenant de la pensée magique et vous avez besoin de ne pas ouvrir le petit pois, soit vous n'êtes pas un tenant de la pensée magique, vous ouvrez le petit pois et vous dites non, il n'est pas animé par des esprits, il y a juste un parasite dedans qui est éteint. J'ose espérer que le cours de l'Université populaire ait l'art d'ouvrir les petits pois en deux.
Oui, bonsoir. Moi, je me pose la question à la, avec ce cours de savoir si Freud était moniste ou dualiste. On a l'impression qu'il hésite un petit peu entre, d'un côté, la psychanalyse pure et de l'autre côté, le corps. Hein, il essaie de mélanger un peu l'inconscient et le neurone. Et je me pose cette question parce que c'est important pour la médecine actuellement. Moi je suis médecin généraliste, je reçois des gens qui ont une plainte hein, et très souvent on les oriente ou vers un psychologue ou vers un somaticien hein. Très souvent quelqu'un qui a par exemple des extrasystoles, on peut le traiter de deux façons hein, chez un psychologue ou chez un cardiologue. Et je pense que enfin moi je suis de plus en plus moniste depuis que je viens à l'université populaire. J'ai vraiment l'impression que l'inconscient est neuronal un petit peu et physique. Et j'ai l'impression, en écoutant ce cours, que Freud avait ses prémices déjà un petit peu. Est-ce qu'il était dualiste ou pas ?
Vous avez raison d'être radical dans votre question, parce qu'elle contraint à une réponse radicale, sauf que Freud ne répond jamais clairement à ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il est matérialiste, purement, par exemple à l'effet de la... De l'esquisse d'une psychologie scientifique, l'effet de l'analyse sans fin, analyse avec fin. Là, on est dans un matérialisme radical. Métapsychologie, on est exactement dans la perspective inverse. On n'est pas du tout dans le somatique, mais on a un inconscient qui est psychique, mais vraiment psychique. C'est-à-dire qu'il y a des pages où il nous dit qu'il ne faut pas chercher de lieu, il ne faut pas chercher d'endroit. Il n'y a pas de lieu dans le système nerveux dont on pourrait dire un jour qui correspond à l'inconscient. Freud nous dit ne courez pas après ça, ça n'est pas possible. Donc je vais essayer de vous montrer, quand je ferai cours là-dessus, mais je vais bien vous dire un peu comment ça marche, ce qu'est la métapsychologie chez Freud. La métapsychologie pour Freud, c'est une allégorie. Il nous le dit très précisément. Et il le dit aussi dans une lettre où il dit « mais l'inconscient est une allégorie, et il faut savoir que c'est une allégorie, que c'est une topique, c'est-à-dire c'est un lieu, mais que c'est un lieu allégorique. » Comme si vous deviez faire une espèce de schéma. Moi, quand j'ai enseigné la psychanalyse à mes élèves en terminale, il y avait toujours un schéma d'un iceberg avec un tiers émergé, deux tiers immergés. Et puis cette partie conscient, inconscient, préconscient, conscient, sur moi, la censure, etc. C'est un schéma qui vous permet de voir comment ça marche. Puis un jour, il change de topic et il vous dit, ben non, préconscient, inconscient, conscient, oui, ça marche, mais il y a quelque chose d'autre qui peut marcher aussi. Ça, moi, sur moi, deuxième topic. Dans les années 20, il change de topic. Simplement, on pourrait dire, mais c'est comme quelqu'un qui vous dirait, je change d'angle pour photographier le même être. Freud vous dira, à un moment donné, l'allégorie pour saisir l'inconscient, c'est ça. L'inconscient est resté le même, simplement je me déplace, je fais une autre photo sous un autre angle d'une même chose qui me permettra de dire qu'il est aussi ça. Alors il ne faut pas croire que, par exemple, l'inconscient se superposerait au ça, c'est-à-dire que dans la première topique, ce qui correspond à l'inconscient, ça correspondrait dans la deuxième topique au ça, et que ce serait très exactement la même chose. Si on lit l'œuvre complète de Freud, ce n'est pas le cas du tout. C'est le cas parfois, mais pas toujours. Et il faut savoir que Freud est dans la proposition conceptuelle. Donc son problème, ce n'est pas que ça corresponde véritablement à une réalité somatique, c'est que ça puisse permettre de faire avancer le mouvement. Ce qu'il veut, lui, c'est ça, c'est que ça avance, c'est que ça bouge, c'est qu'on soit susceptible de saisir le fonctionnement de ce truc qu'il a postulé, qu'il a nommé l'inconscient. Simplement, on verra, l'inconscient, et il ne le définit jamais réellement. On ne sait pas ce qu'il est, véritablement. Moi, j'ai cherché partout ce qu'étaient les définitions données de l'inconscience. Puis finalement, on peut dire ce qu'il n'est pas. On peut dire ce qui le traverse. On peut dire ce qui le révèle. On peut dire éventuellement par l'extérieur ce que peut être éventuellement sa forme. Mais on ne sait jamais ce qu'il est, puisque par définition, il est inconscient et on ne saura jamais ce qu'il est véritablement. Donc on pourra savoir de temps en temps des choses. Mais ces choses-là, on saura qu'elles sont conscientes. Puisqu'on les saura. Donc, elles ne sont plus dans l'inconscient. Donc, il y a cette espèce de jeu, un peu talmudique, c'est un peu ma proposition, vous verrez, mais un petit peu talmudique, avec l'allégorie, avec la métaphore, avec l'interprétation textuelle, où on a une espèce de réel qui pourrait être assimilable à Dieu. Il est d'une même texture que Dieu, l'inconscient freudien. C'est-à-dire que si vous cherchez à le saisir, et on est dans une logique de théologie négative un peu, si vous cherchez à le saisir, il va reculer, il va disparaître. Il sera à côté. Quand vous aurez l'impression que ça peut conduire à l'inconscient, vous verrez que finalement, ça n'y conduit pas, mais que c'est autre chose qui peut-être vous y conduit. Donc quand Freud dit il y a le rêve, qui est une voie royale qui mène à l'inconscient, il y a tout ce qu'il appelle la psychopathologie de la vie quotidienne, c'est-à-dire les lapsus, les actes manqués. Pourquoi est-ce que vous avez pris la mauvaise clé quand vous allez chez quelqu'un et que vous dites « mince, on n'ouvre pas, je me suis gouré, je n'ai pas pris la bonne clé », etc. Freud vous dit « parce que vous n'aviez pas le désir de venir là, vous n'aviez pas le désir d'entrer, etc. » Bon, ce ne sont pas forcément des théories complètement freudiennes, ce sont des lectures qu'il fait à ce moment-là. Mais tous ces petits accidents de l'âme, ils sont censés pénétrer l'inconscient. Et d'une certaine manière, on arrive toujours à la même chose. C'est-à-dire que chez Freud, vous avez toujours, in fine, dans l'inconscient, cette histoire d'accouplement des parents, cette histoire de meurtre du père, cette histoire de désir de s'accoupler avec sa mère, etc. Au bout du compte, cette espèce de vase de Pandore, c'est toujours la même chose. La horde primitive, le père, le banquier cannibale, etc., etc. Et puis après, vous avez des petites histoires perso. Et dans les petites histoires perso, immanquablement, vous avez des variations sur ce thème-là. Vous arrivez avec un eczéma sur la bouche, par exemple, Freud vous dit « je sais bien ce qui s'est passé, votre père vous a contraint à une fellation quand vous aviez 3 ou 4 ans. » Bon, il a dit que c'était ça, donc voilà. Vous allez voir les 5 psychanalyses, on verra très précisément ce que sont les maladies particulières des gens qui viennent avec des symptômes particuliers. À chaque fois, c'est pas compliqué, à chaque fois, vous avez la question, la réponse est toujours « papa, maman ». La bonne est Freud. Et vous avez toujours exactement le même truc. On replie tout ça. C'est la critique que Deleuze et Guattari font à cette espèce de procédé édipien. L'anti-Édipe est un très beau livre pour ça. De dire, mais on ne va pas rabattre tout dans l'existence sur cette question du fameux triangle édipien tout le temps, sans cesse. Ça, c'est l'obsession de Freud, mais ce n'est pas la vérité. Donc, vous avez raison de poser cette question, parce que suivant que vous allez extraire ici ou là telle ou telle phrase, vous allez tomber sur un Freud ultramoniste. Par exemple, il y a un moment où il dit « bon, l'inconscient, tout ça, c'est de la métaphore, c'est de l'allégorie, mais cette métaphore et cette allégorie, c'est construit sur un roc, c'est l'image qu'il utilise, et le roc, c'est du somatique, parce qu'il n'y a que du somatique. » Au bout du compte, il dit « voilà, j'ai construit une espèce de château. » Et le château, vous en pensez ce que vous voulez, c'est peut-être même une illusion, mais ce château, il est construit sur un roc, et le roc, c'est ce qu'il appelle le plasma germinal. Et le plasma germinal, on ne fait pas mieux comme biologie, comme substrat biologique. Donc il considère que la vérité d'un être, c'est la biologie, ça n'est que ça, mais que sur cette vérité biologique se constitue une métapsychologie qui, elle, pour le coup, permet tout le délire freudien, construit, une espèce de château en Espagne, à partir de ce bloc. C'est le mot qu'il utilise, une espèce de, comme si vous aviez une île, comme si vous aviez au milieu de l'eau une espèce de roc sur lequel vous allez pouvoir construire quelque chose. Et il construit sur le plasma germinal la métapsychologie. La métapsychologie est un château construit sur le plasma germinal. Quand il dit qu'il s'est fait virer du laboratoire, il ne s'est pas fait virer du laboratoire parce qu'il a parlé d'hystérie masculine, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Simplement, il trouve que ça ne va pas assez vite, que l'idée de se faire de l'argent, des clients, une réputation, ça ne va pas assez vite. Donc il quitte le laboratoire. Ça veut dire que c'est fini la recherche. Il ne pouvait plus travailler. Il a travaillé sur des cerveaux d'enfants. Il a fait de l'histologie, il a fait de l'anatomie, il a fait de l'anatomopathologie. Il est allé quand il était chez Charcot, il travaillait sur des cerveaux d'enfants. Donc il a travaillé sur de l'anatomie. Puis à un moment, il arrête l'anatomie. Et si vous pariez pour la métapsychologie, alors après, tout devient possible. Donc, difficile de répondre clairement à votre question. Je vais essayer tout de même en disant il y a un substrat matériel ultra-biologique qui est le plasma germinal. Sur ce substrat, il postule une métapsychologie et la psychanalyse n'est pas interrogation sur la nature du plasma germinal, mais conceptualisation d'un château en Espagne posé sur le substrat du plasma germinal. D'où le dernier texte, l'un des derniers textes, l'analyse finie, l'analyse infinie, 37, mais en 38, où il dit, il y a un moment où, assez probablement, les scientifiques auront découvert comment on pourra, par un réagencement de la chimie, intervenir sur le plasma germinal, donc sur la métapsychologie. Mais n'oublions jamais que la métapsychologie, Freud le dit lui-même, c'est pas moi qui le pense, c'est Freud qui le dit si on le lit attentivement, la métapsychologie est une allégorie, elle est métaphorique. C'est fait pour faire voir, si vous voulez. C'est une espèce de façon de figurer l'infigurable. Donc Freud, il n'est pas gêné parce qu'il va changer de figuration. Il va figurer, puis il va trouver que c'est peut-être plus efficace de figurer autrement, donc il va laisser tomber des concepts à la poubelle. Enfin, pas forcément exactement, mais il va en prendre d'autres. Le principe de nirvana, par exemple, la pulsion de vie, pulsion de mort. Et puis, il y a des moments où des gens le suivent, puis des moments où ils ne le suivent plus. La pulsion de mort, ça a été un grand moment de rupture avec un certain nombre de disciples. Et la pulsion de mort, elle est une proposition allégorique et métaphorique à partir d'un substrat purement biologique, puisqu'il nous dit qu'il a travaillé sur des cellules, enfin, qu'il a travaillé sur des articles de gens qui ont travaillé sur les cellules. Et il dit, voilà, quand on travaille le fonctionnement des protozoaires, des paramécies, de toutes les bestioles possibles et imaginables, on regarde, et il dit, on voit que biologiquement, là pour le coup, c'est pas métapsychologiquement, biologiquement, il y a une pulsion de mort à l'œuvre dans la vie. C'est ce qu'il appelle le principe de nirvana. Le principe de nirvana, c'est que toute chose vivante tend à revenir à l'état d'avant le vivant. Et l'état d'avant le vivant, c'est le néant, dit Freud. Donc il dit, voilà, moi j'ai constaté sur de la biologie, sur des cellules, sur de la molécule, qu'il y avait ce principe de nirvana et qu'il y avait donc une pulsion de mort. Et il y a plein de psychanalystes qui sont un peu perdus parce qu'il habitue tout son monde à une pure métapsychologie métaphorique. Et puis d'un seul coup, son allégorie, il dit à nouveau que les racines, elles sont éminemment biologiques. Parce que là, pour le coup, il va voir du côté de la biologie en disant il y a ça à l'œuvre dans les cellules. Ce qu'on appelle la sculpture du vivant aujourd'hui, hein, quand on parle de la sculpture du vivant en disant qu'effectivement, il y a une espèce de programmation, une espèce d'horloge interne aux cellules qui font qu'on a beau dire, on a beau faire, si vous devez mourir à un âge précis, vous allez mourir à un âge précis, quoi que fasse la médecine, quoi qu'on puisse en penser, la plupart du temps. Si la médecine peut faire un certain nombre de choses, parce que vous avez remonté un réveil, et s'il est plus ou moins remonté, eh bien, il est plus ou moins remonté. Et puis vous pouvez peut-être faire deux, trois trucs pour changer deux ou trois choses, mais globalement, vous avez ce principe de nirvana qui est à l'œuvre dans tout vivant. Tout ce qui est vivant tend vers le retour à l'état d'avant la vie. Et l'état d'avant la vie était le néant. Et Freud dit, voilà, le propre du vivant, c'est de tendre vers le néant. Et il envoie, il voit la démonstration de la validité de son hypothèse d'une pulsion de mort. Madame voudrait juste une question, et puis on arrêtera là.
Pourquoi est-ce que le principe de nirvana ne rejoindrait pas, en fait, ce qu'on a appelé l'apoptose? L'apoptose...
Ben, c'est tout à fait ça. Et l'apoptose, je parlais de la sculpture du vivant, c'est l'apoptose des biologistes.
Absolument. C'est l'aspect biologique, oui, du nirvana, en fait. C'est le nom scientifique que l'on donne...
Récemment donné au principe de nirvana, dont Freud avait parlé, effectivement. Oui. Eh bien voilà, merci beaucoup.
C'était les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray. Régisseur au Centre dramatique national de Normandie, Joël Migne. Prise de son, Pascal René, France Bleu Basse Normandie. Mixage, Jean-Michel Coqui. Réalisation, Véronique Villa. Lundi, la liberté d'inventer.